Chapitre 45. Peut-être enivrés par le vent du large, les Norokai se montrèrent de plus en plus excités. Tapant du pied, ils cognaient sur leurs boucliers à croire que leur raid sur Ildakar était un triomphe et non une déroute. Au coucher du soleil, ils entonnèrent une litanie.
« Dieu serpent, le dieu serpent a soif de sang !»
Crayeux gesticula frénétiquement.
« Le dieu serpent nous sauvera, mais il est affamé !»
Il courut rejoindre Calvaire.
« Le dieu serpent veut du sang, mon Calvaire !»
Le roi regarda son chaman, l'air dubitatif.
« Tu es sûr que le dieu serpent nous sauvera ? C'était dans une vision ?»«
Le dieu serpent sauvera certains d'entre nous !»
couina Crayeux.
« Mais je ne dirai pas lesquels, c'est un secret !»
Calvaire étudia les esclaves enchaînés sur le pont et son regard s'arrêta sur le plus chétif.
« Prends celui-ci. Ce sera un bon amuse-gueule pour le dieu serpent. »
Le malheureux gémit et se débattit dans ses liens. Autour de lui, les autres se ratatinèrent comme s'ils pouvaient devenir invisibles. Bannon tira sur sa chaîne. S'il se libérait, il ignorait comment aider le sacrifié, mais bon. Les yeux braqués sur Calvaire comme des couteaux, Lila tenta de se détacher et se fit de nouveau saigner les poignets. Nonchalant, Calvaire flanqua un coup sur la tête à Bannon, puis il l'ignora. Malgré sa résistance, l'esclave choisi par le roi dut capituler. Torse nu, la peau du dos cuite et recuite, c'était un noble mineur d'Ildakar, selon ses dires. Les Norokai se massèrent à bâbord et tapèrent sur le bastingage avec leurs lances, leurs marteaux de guerre ou le pommeau de leur épée. Un appel de toute évidence.
« Le dieu serpent est dans les abysses !»
cacta Crayeux.
« Mais il a faim. Un jour, il nous sauvera. »
Il se rembrunit, soudain geignard.
« Mais pas tous, non pas tous !»
Les esclavagistes s'épargnèrent toute forme de cérémonie. Tirant le sacrifié jusqu'au bastingage, Calvaire le força à se pencher vers l'eau. Puis, vif comme l'éclair, il l'égorgea. Quand le sang jaillit à flots, le roi fit basculer l'agonisant dans le vide en le retenant par la ceinture et laissa le fluide vital couler le long de la coque puis dans la mer. Avides de voir la suite, les Norokai continuaient à faire du boucan. Les prisonniers, eux, gémissaient de terreur.
« Le dieu serpent est dans les abysses !»
fit Crayeux.
« Mais il viendra se nourrir !»
Quand le cadavre fut vidé, Calvaire le jeta par-dessus bord. Dérivant entre les trois galères, la dépouille finit par sombrer sans que le dieu serpent daigne se montrer. Déçus, les Norokai grognèrent d'abondance. Bannon eut l'estomac retourné par ce nouvel assassinat. Silencieuse, Lila semblait broyée du noir. En réalité, elle ne cessait pas de s'attaquer à la corde qui lui liait les poignets. C'était bien beau, mais si elle réussissait, il y aurait encore la chaîne. Les Norokai se fiant aux étoiles, ils ne craignaient pas la navigation nocturne. Attaché juste sous le cercle de lumière d'une lanterne, Bannon ne parvenait pas à trouver le sommeil. À côté de lui, Lila était roulée en boule, un ressort prêt à se détendre en réalité. Comme toujours, sa présence réconfortait le jeune escrimeur. La nuit, les voiles sombres étaient invisibles, sauf quand elles occultaient la lune ou les étoiles. Pour passer le temps, Bannon écoutait les vagues qui clapotaient contre la coque. Lui aussi, roulé en boule, Crayeux dormait sur le pont. De temps en temps, il se réveillait, changeait de place et se rendormait. Un signe de nervosité? S'il parvenait à se libérer, Lila et Bannon n'auraient nulle part où aller. Le jeune escrimeur le savait. Au milieu de la mer, personne ne pouvait nager assez longtemps pour atteindre une côte. Près de Bannon, Lila était si silencieuse et immobile qu'il n'aurait su dire si elle dormait. Lui, il écoutait son cœur égrener les secondes de sa captivité. Réaliste, il savourait chaque instant où il restait en vie. Quand les galères seraient en vue des îles, ça risquerait de ne plus durer longtemps. Au milieu des grincements de bois, des bruissements de toile, du clapotis des vagues et des ronflements des Norokai, le jeune escrimeur capta soudain un son différent. Sur la coque, une succession de petits bruits comme si quelque chose ou quelqu'un l'escaladait. Lila ouvrit les yeux, aussitôt prête à l'action. Tendant le cou pour voir ce qui se passait, elle recommença à lutter contre ses liens. Bannon faillit mourir de terreur quand il vit une ombre passer par-dessus le bastingage et prendre pied sur le pont. Un autre intrus fit de même quelques instants plus tard. Des cris montèrent des deux autres galères. De sa position, Bannon reconnut sans peine le cliquetis des armes et les hurlements de rage des combattants. Se relevant, il tira sur sa chaîne. Comme un chien de garde, Lila se campa à ses côtés. Eux aussi réveillés, les Norokai saisirent leurs armes. Du coin de l'œil, Bannon vit un troisième intrus couvert d'écailles se réceptionner souplement sur le pont. Très vite, cinq autres créatures le suivirent. De gros yeux globuleux, d'énormes gueules garnies de petites dents pointues, des branchies sur le cou et des mains palmées terminées par des griffes.
« Des Selkas !»
souffla Bannon. L'estomac retourné, il lutta pour se ressaisir, puis cria à plein poumon
« Des Selkas !»
Le fer entrant dans ses chairs, il lutta contre la corde qui entravait ses poignets.
« Libérez-nous »
lança-t-il au Norokai.
« Je ne veux pas mourir éventré comme un poisson. Permettez-moi de périr les armes à la main. »
Quand il passait à l'abordage, les Selkas ne faisaient pas dans la dentelle. Les poignets en sang, Lila ne renonçait pas pour autant.
« Je ne les laisserai pas te tuer, mon gars. En tout cas, pas sans me battre. »
Enfin réveillés, les esclavagistes se campèrent face aux Selkas. Le corps verdâtre, les monstres arboraient un peu de couleur sur leurs nageoires, du bleu pour l'essentiel, mais parfois rayé d'argent. Enragés, ils passèrent à l'attaque et déchiquetèrent le torse des premiers Norokai qui tentèrent de les arrêter. Saisissant le bras d'une esclavagiste, un Selka le mordit sauvagement. Très efficace, les petites dents déchirèrent la chair et broyèrent les os. Coupé net, la main armée de la Norokai tomba sur le pont. Comme si c'était une égratignure, la guerrière propulsa son moignon dans la gueule du Selka. L'os qui en dépassait énucléa à la créature qui continua pourtant à se battre. À 3-1, les Selkas prirent vite l'avantage. Un horrible festival de gorges déchiquetées, de nez écrasés et de cages thoraciques ouvertes pour en arracher le cœur et le dévorer. Les Norokai ne servaient pas seulement de chair à massacre. Avec sa hache, Calvert décapitait tout adversaire qui passait à sa portée, voire deux à la fois à l'occasion, et ses pillards n'étaient pas en reste. Encore plus blafard à la lumière de la lune, Crayeux courait dans tous les sens en gesticulant.
« homme poisson, je ne veux pas être dévoré par des poiscailles !»
D'un bras puissant, Calvert poussa le chaman près du grand tonneau d'eau à la proue.
« Ne t'expose pas, Crayeux, reste derrière moi !»
Piégés comme des rats, les esclaves s'abritaient là où ils le pouvaient. Foudrage, Bannon tirait toujours sur sa chaîne, mais la fixation refusait de céder. Le port régalien, une Selka avançait sereinement au milieu de la mêlée. Hautaine, elle balayait du regard les Norokai comme s'ils étaient tous inscrits sur le menu d'un banquet imminent. Bannon reconnut la reine des hommes-poissons. Un esclavagiste fondit sur elle, une masse hérissée de pics au poing. Presque distraitement, la souveraine lui glissa une griffe sous le menton et le piqua au bout comme un pêcheur qui hameçonne une carpe. Sans effort, elle fit ensuite passer sa proie par-dessus bord, comme s'il s'agissait d'un vague détritus. Ouais. Très près de Bannon et de sa compagne, un Selka approchait des esclaves toutes griffes dehors. Voyant qu'ils étaient entravés, il bondit avec l'intention évidente de faire un massacre. Avec un cri rageur, Lila se libéra enfin de sa corde, qu'elle jeta triomphalement au loin. Libre de ses mouvements, elle saisit sa chaîne à deux mains et tira de toutes ses forces. Avec un craquement sinistre, la fixation céda enfin. Lila fit tourner sa chaîne comme un fléau d'armes. Touché au visage, le Selka porta les mains à sa gueule écrabouillée. Impitoyable, la Moracite le frappa à la tempe et lui défonça le crâne. Raide mort, le monstre sous-marin s'écroula dans une flaque de sang et de limon. Après un coup d'œil circulaire sur le pont, Lila s'attaqua à la corde qui entravait les poignets de Bannon. Les doigts en sang et les ongles cassés, elle parvint pourtant à en venir à bout. Bannon plia les doigts, prêt à utiliser ses poings s'il ne trouvait rien de mieux, mais sa chaîne était toujours fixée au bastingage. Avide de venger le Selka qu'elle venait d'abattre, trois autres monstres approchaient de Lila. Au mépris de la douleur qui montait de sa cheville, Bannon tira comme un fou sur sa chaîne et sentit qu'il n'était plus loin de se libérer. Sa chaîne levée comme une arme, Lila vint se placer devant lui pour le protéger.
« J'y suis presque !»
souffla-t-il. Pendant que Lila tenait les Selkas en respect avec sa chaîne, une arme dévastatrice entre ses mains, Bannon réussit enfin à faire sauter la fixation de la sienne. Surpris, il manqua perdre l'équilibre et tomba à genoux. À présent, les Selkas l'avaient lui aussi dans leur collimateur. Très fine et étrangement belle, la reine vint s'interposer entre ses trois sujets et leur proie.
« Pas celui-là »
ordonna-t-elle, ses yeux jaunes rivés sur Bannon.
« Pas celui-là »
Tendant un index griffu vers le jeune escrimeur, elle ajouta
« Je me souviens !»
Penaud, les trois Selkas battirent en retraite tandis que la reine chargeait furieusement les Norokai. Ses autres sujets ne s'intéressèrent plus aux prisonniers. De toute façon, ils avaient largement de quoi massacrer jusqu'à plus soif. Infatigable, Calvert continuait à tailler des selkas en pièces. Couvert de sang et de limon, il glissait parfois sur des fluides vitaux ou des organes encore fumants.
« Calvert, mon roi Calvert !»
cria Crieux, caché à la proie.
« Sans toi, ma vie sera un calvaire !»
Rageuse, une norocaille vint barrer le chemin à la reine.
« Je vais t'étriper, saloperie »
brailla-t-elle. Dans sa fureur, elle passa devant les esclaves sans les voir. Bannon frappa avec sa chaîne qui faucha les jambes de la femme. Se relevant furieuse, elle bondit sur le jeune escrimeur, mais un nouveau coup de chaîne lui fit exploser le crâne. Une norocaille de moins en ce bas monde. La reine n'avait pas perdu une miette du spectacle. Entre ses dents, elle lâcha un sifflement approbateur. Enfin, peut-être. Le bref incident n'échappa pas à Lila.
« Surtout ne lui compte pas Fleurette, mon gars !»
En toute logique, la souveraine choisit Calvert pour adversaire. De sa démarche gracieuse, elle approcha du roi, à la fois superbe et menaçante. Dès qu'il la vit, Calvert comprit qu'il était face à son destin. En hâte, il ouvrit en deux le torse d'un selka. Le tranchant de sa hache coincée dans les côtes du moribond, il dut lui plaquer une botte sur le ventre pour le dégager. Les affaires courantes expédiées, il fit face à la reine, désormais flanquée de quatre guerriers poissons. Acculé à la proue, Calvert se prépara un assaut furieux. Partout sur la galère, les esclavagistes et les monstres marins se décapitaient, s'étripaient, s'égorgeaient ou s'arrachaient le cœur. À ce rythme, le prochain nettoyage du pont serait un calvaire. Le roi des Norocailles montra les dents à son adversaire et la foudroya du regard. Sans craindre l'énorme hache du colosse, la selka tendit les mains, griffes prêtes à lacérer la chair. À 5-1, les selkas allaient réduire Calvert en bouillie. C'était couru d'avance. Assez digne pour une fois, le roi semblait prêt à mourir bravement. Soudain, une silhouette blafarde s'interposa entre les combattants. Comme un démon, Crieux agita frénétiquement les mains.
« Non, non »
cria-t-il des larmes aux yeux.
« Vous n'aurez pas mon roi Calvert !»
Sans armes, il se dressa face à la reine des selkas. Du bout des griffes, elle fit comme un accroc sur le ventre de l'avorton, au niveau du nombril, puis elle remonta la main, ouvrant le ventre du chaman comme celui d'un vulgaire poisson.
« Mon calvaire !»
gémit Crieux tandis que ses entrailles se déversaient sur le plancher. Le roi en resta bouche bée de terreur.
« Crieux !»
cria-t-il quand il se fut un peu repris. Bannon eut envie de vomir. Il abominait le grotesque chaman. Pourtant... Nonchalante, la reine égorgea l'albinos, puis écarta sa dépouille comme s'il s'agissait d'un banal chiffon sale.
« Non !»
cria Calvert, désespéré comme s'il venait de voir son monde s'écrouler.
« Non !»
Aveuglé par la haine, il chargea. Se regroupant, les Norocailles survivants accoururent à sa rescousse.